invité, il est déjà aujourd'hui sur Mons, en Belgique, où ce matin il prêche au culte, cet après-midi il prêchera l'évangile, et ensuite il aura l'occasion lundi, mardi d'annoncer l'évangile. Il viendra chez nous le jeudi, je laisserai la petite affiche au fond de la salle, vous pourrez voir les thèmes des réunions qu'il nous a proposés. Ce frère est missionnaire dans les Assemblées de Dieu, il s'appelle Denis, missionnaire au Sénégal. Et le Seigneur l'utilise depuis des années. Il a, je dirais, entre 70 et 75 ans, mais il est toujours aussi jeune. Il fait un footing tous les jours avec ses baskets. Il est en forme et il veut continuer de prêcher l'évangile. Le Seigneur l'a utilisé il y a des années en arrière, à la frontière entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Il y a une tribu, une ethnie qui s'appelle les Gourmanché. Si vous êtes de l'Afrique et vous connaissez ce coin-là, vous connaissez cette tribu. C'est une tribu qui est entre les quatre frontières, qui n'est acceptée par aucun des quatre pays. Une tribu qui a été vraiment laissée à elle-même. Et notre frère, étant au Mali, a prêché surtout sur des villes musulmanes, comme Bamako, Tombouctou, Ségou. Et un jour, il a eu quelqu'un de cette tribu qui est venu lui parler des besoins de sa tribu. Il est allé sur place et ils sont essentiellement animistes, avec quelques poches islamistes. Et il a commencé à travailler, comme il a toujours fait. Au départ, rien de particulier, quelques âmes qui ont été sauvées, jusqu'au jour où il a été appelé pour aller dans un village où on lui a demandé de participer à un enterrement. Et quand il est arrivé dans ce village, le corps de la personne décédée était déjà dans le trou et les gens lui ont demandé de prier et lui il a simplement prié le Seigneur et ce mort est ressuscité. Vraiment, ça a été extraordinaire. Il n'a pas du tout prié pour la résurrection de cet homme, il a prié pour la consolation de la famille et Dieu a ressuscité cet homme. Et suite à cela, il y a environ entre 30 et 40 villages qui se sont ouverts à l'évangile. Il a établi une quarantaine d'églises, il a formé des anciens. Et voilà, il a fait ce travail. Humblement, si vous l'écoutez prêcher, vous serez impressionné, il peut vous raconter plein de choses. Mais toujours, toujours, il dit que il est un instrument entre les mains de Dieu et que Dieu lui a fait grâce. Voilà. Voilà, il viendra avec son épouse, Joël, qui a créé une association qui s'appelle Monde Action, que nous soutenons avec Tourcoing. Ils font un travail social, en plus d'un travail spirituel. Donc lui prêche l'évangile. Et elle a ouvert orphelinat, dispensaire et bien d'autres choses pour aider nos frères et nos sœurs. Actuellement, les Gourmandchés sont persécutés. Si vous suivez un petit peu les actualités, ils ont dû quitter les endroits où ils habitaient et ils sont regroupés sur une ville, j'ai un trou de mémoire, mais du côté du Niger. Toi, ça ne te dira rien, non? Mais ils ont fait un camp de réfugiés et on a regroupé tous les chrétiens de tous ces villages qui ont dû s'enfuir à cause de l'État islamique. Ils ont tout perdu, mais on a eu des vidéos il n'y a pas longtemps où dans ce camp de réfugiés, ils viennent de faire des baptêmes. Et le frère leur a dit, faut pas faire trop de bruit, parce que pendant les baptêmes, ils avaient sorti les tam-tams, ils sont entourés par des musulmans dans ce camp. Mais ils ont dit, pasteur, pourquoi on n'a pas le droit de chanter? On est sauvés, on croit en Jésus-Christ. On a tout perdu, mais on est heureux en Jésus. Et il m'a dit, ils sont épatants. Il n'y en a aucun qui a perdu la foi. Ils sont des milliers. Et ils sont bien, bien occupés par bien suivis par leurs anciens. Que Dieu soit béni. Amen. Donc voilà, si vous avez l'occasion, il prêchera l'évangile simplement chez nous, dans les horaires qui sont indiqués sur cette affiche. Me concernant, moi personnellement, j'ai eu cette grâce, comme beaucoup d'entre nous dans cette salle, d'un jour découvrir qui était Jésus-Christ. Je suis né dans un foyer, je dirais, chrétien, certainement, en tout cas sûr pour ma maman. Mon papa était baptisé dans une église, mais je ne sais pas s'il s'est vraiment converti. Toujours est-il que quand j'avais 2 ans, et mon petit frère, quelques mois, mon père a décidé de quitter la maison pour vivre sa vie normalement. Ça faisait des années, même avant le mariage, qu'il trompait ma maman régulièrement. Et un jour, ma maman a demandé une explication et ça s'est terminé par je vais divorcer d'avec toi. C'est lui qui a demandé ça. Jamais ma maman ne l'aurait fait. Mais voilà, il est parti de la maison, mon petit frère avait quelques mois. Et sans que je le réalise à l'époque, quand on a 2 ans, on ne peut pas exprimer ça. Mais j'ai grandi avec un mal-être intérieur dû à l'absence de mon père. C'est seulement depuis quelques années que les psychologues réalisent qu'il y a des gros, gros problèmes chez les enfants divorcés et on commence à en parler. Mais à l'époque, moi je suis de 67, c'était quelque chose qui était dont on ne parlait pas beaucoup. C'est dans ce contexte-là que ma maman s'est rapprochée du Seigneur. Elle dit, c'est ces mots à elle. Elle serait là, elle pourrait mieux en parler. Mais elle dit que c'est dans cette période-là où elle s'est retrouvée seule avec 2 enfants, qu'elle s'est vraiment approchée de Dieu et qu'elle nous a parlé de son Seigneur qui s'occupait d'elle. On était régulièrement amenés dans notre assemblée. Ma maman habitait Hellemmes, dans la banlieue de Lille, et elle allait sur une église qui se trouvait à l'époque, pour ceux qui la connaissent, rue Solferino, à Lille, qui était tenue par le pasteur Michel Maurice, et elle nous a amenés régulièrement en tant que monitrice d'école du dimanche dans les réunions. Et j'ai grandi avec ce mal-être intérieur que je ne pouvais pas toujours bien définir, et en même temps, j'avais au fond de moi-même je ne supportais pas les injustices. Je m'attristais du mal que je voyais autour de moi. Je me disais, cette terre est mauvaise, certainement à cause de mon enfance, où je trouvais que le monde entier était noir, négatif, mauvais. Et en même temps, je grandissais avec au fond de moi une haine profonde de mon père. Une de mes cousines était avec moi dans la même classe, et sa maman était la sœur de mon père. Et elle me disait toujours, parce qu'elle allait à l'école du dimanche avec moi, tu dois aimer ton père, tu dois honorer ton père. Et je lui disais, c'est facile pour toi, parce que toi, tu as encore tes parents. Mais moi, mon père est parti de la maison. Et je voulais le dire à qui voulait entendre que je ne serai jamais comme mon père. Que si un jour j'étais avec mon père, je le tuerais, parce qu'il m'avait fait beaucoup souffrir. Mais le Seigneur est bon. Et dans cette période où mon père est parti de la maison, mes grands-parents paternels étaient des chrétiens très engagés dans cette église où j'étais moi-même enfant. Et j'ai su des années plus tard que le jour où mon père est parti de la maison, mes grands-parents ont prié toute l'après-midi où ils ont appris le divorce. Ils habitaient Fives dans une petite maison et en pleine journée, ils ont baissé leurs persiennes et ils se sont mis à prier, dans les bras l'un de l'autre en pleurant, en demandant pardon au Seigneur pour le péché de leur fils. Mais ils ont dit au Seigneur que nos 2 petits-enfants soient une bénédiction pour l'Église. Si notre fils a été fait du mal à l'Église, nous te demandons que nos 2 petits-enfants soient une bénédiction pour l'Église. Alors c'est dans ce contexte-là que j'ai appris cela, que j'ai découvert beaucoup plus tard la prière de mes grands-parents, de ma mère qui elle-même régulièrement demandait au Seigneur de la relever, de changer le mal en bien. Et on a été élevés comme ça avec mon frère, avec le mieux possible par une maman qui a tout fait pour nous parler du Seigneur, nous amener au Seigneur. Et quand j'allais aux réunions, surtout le dimanche après-midi, on avait un petit peu, nous, cet état d'esprit anglais. Hein, le dimanche après-midi à Solferino, c'était la réunion dite d'évangélisation. On annonçait l'évangile à 18h. En même temps, je me sentais en combat avec les choses de Dieu. J'entendais mes copains à l'école qui disaient qu'on descendait du singe. Je me disais que pourquoi pas, j'essayais de me persuader que Dieu n'existait pas. Et en même temps, je trouvais ça absurde. Et j'étais très intrigué par la fin du monde, le retour de Jésus-Christ. J'étais certainement, comme beaucoup d'enfants de chrétiens, tiraillé entre les deux. Je ne me sentais pas un mauvais garçon. À l'école, je flirtais pas avec les filles, j'avais jamais touché une cigarette. J'ai jamais bu une goutte d'alcool. À l'époque, nous, il y avait des booms. Je sais qu'aujourd'hui, si je parle comme ça à des jeunes, ils vont dire de quoi ils parlent, c'est des explosions. Non, les booms, c'était on partait avec des copains, des copines de la même école, la même classe, et on faisait une petite soirée avec de la musique. Je ne savais pas danser, je ne sais toujours pas danser. Voilà, c'est comme ça. J'étais comme ça et je me sentais pas mal. Quand j'entendais les pasteurs qui prêchaient l'évangile, qu'on était pécheurs perdus, je me disais c'est bien. Parce que dans l'église où j'étais, il y avait effectivement des gens qui venaient avec des problèmes d'alcool, de drogue, prostitution, et qui se convertissaient. Je me disais, c'est bien pour eux. Mais moi, je ne me sentais pas concerné, parce que j'avais le sentiment que j'étais bien. Alors, voilà, j'ai grandi avec ce mal-être que je cachais, et en même temps, cette image que je me donnais, que j'étais pas si mal que ça. Un samedi soir d'été 1985, Mon papa, qui avait le droit de nous prendre tous les 15 jours en tant que parents divorcés, est venu nous chercher chez maman et a demandé à ma mère s'il pouvait nous emmener au stade Grimont-Préjoris à Lille. Je ne sais pas si vous connaissez, il est détruit ce stade maintenant, c'est le grand stade. Et il a dit à ma mère, est-ce que je peux les emmener voir le LOSC, hein, équipe de football connue dans l'agglomération. Et mon papa nous a amenés dans cette tribune présidentielle. Mon papa avait beaucoup d'argent, donc il nous a amenés dans la tribune les plus riches, entre guillemets. Et sur le côté gauche du stade, il y avait à peu près 200 jeunes, crâne rasé, qui pendant tout le match de foot ont fait des signes nazis, étaient violents, balançaient des bouteilles, se heurtaient avec la police. Et vous voyez ce mal qu'on cache en nous, cette haine que j'avais de mon père, ça a été l'occasion. Elle est ressortie. Et j'ai dit à mon père, la prochaine fois que je viens au match, je vais avec ce groupe. Et mon père, qui n'était pas du tout chrétien, m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Jamais ta mère va accepter ça, jamais j'accepterai ça. Mais voilà, l'occasion a saisi mon cœur. Et ce mal que je refusais d'amener au Seigneur quelque part, c'est sorti. Et malheureusement, dans les semaines qui ont suivi, on a intégré ce groupe de hooligans, hein, comme on les appelait à l'époque, en 80. C'est un mélange de skinheads et de supporters qui viennent que pour se battre. Et avec mon petit frère, en 2 semaines, on a complètement changé de look. On est arrivé à l'église, crâne rasé, bombers, jeans délavés. On n'était plus du tout les mêmes garçons. Et à l'époque, c'était tellement un mouvement qui venait de prendre la naissance en France qu'à l'église, les gens pensaient qu'on faisait le service militaire. Et quand ils disaient à ma mère, tes enfants sont à l'armée, ma mère avait tellement honte en tant que chrétienne qu'elle n'osait pas répondre. Et on est rentré dans cet engrenage pendant 4 ans, où malheureusement, j'ai découvert avec horreur le mal qu'il y avait dans mon cœur. Moi qui pensais que j'étais si bien pendant des années, que tout le monde disait, mon frère et moi, qu'on était des anges, ben en fait, j'ai découvert qu'en fait, le mal est tapis au fond de notre cœur. Et là, dans ces matchs où ma mère régulièrement priait parce qu'elle savait qu'il y avait des bagarres, des arrestations, ben j'ai découvert qu'on est capable de tout. J'ai vu des copains tellement sous l'emprise de l'alcool qui se frappaient jusqu'au sang. J'ai été moi-même arrêté plusieurs fois. Je me suis fait frapper 2 fois. J'ai été une fois emmené à l'hôpital. Et je suis persuadé, Dieu m'a au moins gardé 2 fois dans ces circonstances-là. La prière de mes grands-parents, la prière de ma mère, Dieu l'a entendue parce que je pense vraiment que j'aurais pu mourir dans certaines périodes de ma vie. Dans cette période-là, ma maman nous a emmenés en colonie de vacances chrétiennes. C'était pas toujours facile pour elle et Dieu lui a parlé très fortement. La secrétaire de cette colonie de vacances lui a dit un jour, écoute Gisèle, j'ai prié pour tes fils et Dieu m'a montré qu'un jour ils serviraient le Seigneur. Ma mère était révoltée parce qu'elle a dit, mais elle est folle, elle sait même pas comment sont mes fils, ils sont complètement opposés à Dieu. Elle avait une petite caravane dans cette colonie, elle est partie crier sa colère d'avoir entendu une telle parole. Mais en même temps, elle a été bouleversée parce qu'elle était étonnée de cette parole de Dieu pour elle. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai continué à aller à l'église. Il y avait dans l'église où j'étais une jeune fille que j'aimais beaucoup parce que pendant les réunions de jeunesse, elle était très agressive avec le pasteur. Régulièrement, elle se levait, elle le faisait taire. Il fallait même la sortir de la réunion de jeunes tellement, et c'était une enfant de chrétien pourtant. Et cette fille-là, du jour au lendemain, je l'ai vue être transformée par l'évangile de Jésus-Christ. Et cette fille qui était auparavant très méchante, très agressive, j'ai appris beaucoup plus tard qu'en fait, cette fille avait touché à l'occultisme et qu'elle était possédée. Et qu'en fait, ces manifestations pendant les réunions étaient tout simplement le démon qui était en elle et qui agissait pour perturber les réunions, pour faire du mal. Elle était complètement libérée de cette haine, de cette agressivité. Et un dimanche matin, j'ai entendu prier dans l'église, moi qui me disais, mais c'est pas elle, pas possible. Et un jour, elle est venue voir, parce qu'elle m'aimait beaucoup, dans le Seigneur, hein, je veux dire. Et elle m'a dit, Fabrice, si tu continues à vivre comme tu vis, tu vas droit en enfer. Ça a été pour moi une parole percutante. Parce que elle, qui rigolait de toutes ces choses-là, elle m'a interpellé ce jour-là. Dans cette même période, ma maman a réussi à nous inscrire à une colonie, un camp de jeunesse. Pour ceux qui connaissent le Coq Banni, hein, c'était une des dernières années que le Coq Banni existait, du côté de l'Aisne. Et je suis parti avec mon frère et 3 autres jeunes de l'église que malheureusement nous avions fini par faire rentrer dans notre bande. On est allé pas du tout par bonne disposition pour la colonie, mais on y est allé parce que ma mère avait insisté et j'avais trop de respect pour la contrarier. Et un soir, alors que le pasteur Ulysse Papaïs, si vous le connaissez, prêchait l'évangile très simplement, que j'avais entendu pendant des années, des années, et c'était le même message, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais ce soir-là, un soir de cette mission, cette série de réunions de jeûne, il a prêché tout simplement que j'étais pécheur, j'étais perdu, que Dieu m'aimait et qu'il avait donné son fils pour moi. J'étais plus le même garçon. J'étais plus ce garçon qui auparavant trouvait qu'il était bien, qu'il n'avait pas besoin de Jésus. J'étais plutôt ce garçon qui était tellement mal au fond du trou que je me disais que ce n'était pas possible que Dieu puisse m'aimer dans l'état où j'étais. Mais j'ai reçu cet évangile. Dès le soir même, ça, le Seigneur a commencé un travail dans mon cœur. Et je me souviens qu'on dormait sous tente à l'époque, on avait tous des petites tentes, et j'ai passé une bonne partie de la soirée à pleurer tellement j'étais bouleversé que Dieu m'aime, pourri comme j'étais. Ça a été vraiment pour moi un changement notoire. Mais tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je crois que beaucoup on pourrait dire pareil. Quand le Seigneur rentre dans notre vie, il commence quelque chose. Et il y avait des choses qui avaient besoin d'être changées. Dans un autre camp de jeunesse, le vendredi avant le camp de jeunesse, j'allais me coucher, je savais que le lendemain on partait pour un petit camp de jeunes, d'une centaine de jeunes. Et avant de me coucher, j'ai pris un petit livre, peut-être que ceux qui sont britanniques le connaissent, un livre de Duncan Campbell, qui s'appelle Le prix et la puissance du réveil. Et c'est ma mère qui avait ça dans son armoire, je me suis dit, tiens, c'est pas long, c'est petit à lire, je vais lire ça. Et dans ce livre, Duncan Campbell parle de Gédéon qui offre sa vie sur l'autel. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai dit au Seigneur, je veux te donner ma vie, je veux que ma vie te soit consacrée. Le lendemain, je suis allé au camp de jeunes avec celle qui était ma fiancée à l'époque, qui est devenue mon épouse. Et quand le pasteur a commencé le camp de jeunes, il a dit, j'avais préparé mes messages, mais cette nuit, Dieu m'a réveillé et Dieu m'a demandé de changer tous mes messages. Et ce matin, j'ai à cœur de vous prêcher sur Gédéon et sa consécration sur l'autel. Je me suis dit, c'est pas possible. Et pendant qu'il prêchait, tout ce que j'avais lu dans le livre, c'est exactement ce qu'il disait. J'avais l'impression d'être fou, de me dire c'est pas possible. C'est comme si Dieu était dans ma chambre et Dieu me disait, tu vois, hier soir, j'étais avec toi dans ta chambre et pour te dire que j'étais avec toi ce matin, le frère parle de ma part. Ça a été un bouleversement. Je savais plus où j'en étais. Je me disais, c'est bizarre. Dieu est réel alors, vu qu'il me dit ce qu'il m'a dit hier soir dans la chambre. C'était une expérience marquante. Ma vie était vraiment là, plus profondément encore transformée. La semaine qui a suivi, je suis reparti à la fac de Lille 3. Je prenais le métro, mais chaque fois que je sortais du métro, je me disais, t'as pris le métro, ça va vite. J'avais l'impression de ne plus être sur la Terre. Mais c'est mon expérience. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous vivre ça. Mais en tout cas, ça a été mon expérience pendant une semaine. L'impression de ne plus être là, tellement j'étais bien avec Jésus-Christ. Mais le Seigneur devait continuer, et il continue encore. Quand je suis arrivé à l'école biblique, en 91, le problème du racisme n'était pas réglé dans mon cœur. Je n'étais pas devenu du jour au lendemain hooligan et skinhead comme ça. J'avais été plusieurs fois frappé dans le métro par des maghrébins. Je partais une fois à une réunion de jeunesse parce que ma mère me forçait à aller à la réunion de jeunesse. Et sur la route du retour, on s'est fait frapper avec des copains de l'église. Et quand je suis rentré, j'ai dit à ma mère, c'est bien, on va pour ton Dieu à l'église, on se fait frapper. Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? J'avais une haine en moi, la haine des Arabes notamment. Et quand je suis arrivé à l'école biblique, c'était pas réglé ça. Mais le Seigneur a permis qu'à l'école biblique, il y ait un frère d'origine marocaine, vous le connaissez peut-être, Saïd Oujibou, qui est ensuite devenu lui-même un peu serviteur de Dieu, entre guillemets. Mais le Seigneur a permis qu'on mange ensemble et il m'a donné son témoignage. Il m'a dit, moi, avant de me convertir, j'avais la haine de Le Pen. Et moi, je me suis dit, oula, t'es mal placé pour lui parler. Mais le Seigneur a travaillé mon cœur et je pense qu'à partir de ce moment-là, le Seigneur m'a montré que vraiment, ça, dans ma vie, c'était pas réglé, que j'avais un vrai problème, et que le Seigneur aimait tous les hommes, et il voulait que tous les hommes soient sauvés, et que dans notre sang coule le même sang, dans nos veines coule le même sang, celui de Adam, notre Père à tous. Peu importe d'où nous venons, nous avons tous le même Père. Dieu m'a fait comprendre cela, et il m'a changé, il m'a transformé. Dans cette même période, j'ai écrit à mon Père, parce que l'Évangile passe aussi par le pardon. Il fallait que je prenne mon courage à deux mains. Et un soir, qu'on est à l'école biblique, maladroitement, hein, on en parlait avec ma femme, maladroitement, j'ai écrit une lettre à mon père où je lui ai demandé pardon parce que j'avais trouvé un plus grand pécheur que lui sur la terre. C'était moi. Et je lui ai dit, papa, je te demande pardon, je ne peux pas continuer à vivre avec la haine dans mon cœur. Merci Seigneur. Quand le Seigneur commence une œuvre, il va jusqu'au bout. J'ai encore des choses à changer, je le sais très bien. Mais j'ai confiance en mon Seigneur, celui qui m'a aimé avant même que moi je le connaisse et qui avait déjà mis sur le cœur de mes grands-parents de prier pour moi, qui avait dit à cette sœur en colonie qu'un jour, mon frère et moi nous servirions le Seigneur. Lui me connaissait avant tout ça. Et il m'a aimé, il m'a appelé, il m'a sauvé. À lui soit toute la gloire. Amen.